Galhistoire, l'application qui fait adorer l'histoire. Avec l'application Galhistoire, écoutez et regardez des centaines d'histoires à l'infini. Retrouvez tous les personnages Galhistoire, la série Mythes et Légendes et des nouveautés chaque mois. Vous pensez que vos enfants en sauront plus que vous sur l'histoire de France ou sur la mythologie égyptienne? Eh bien, vous avez raison. Alors, prêt à les faire voyager dans le temps? Essayez dès maintenant l'application Galhistoire à télécharger sur l'Apple Store ou Google Play.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dans la classe 2. Avec Dans la classe 2, vous allez avoir la chance d'assister à une discussion entre des enfants de votre âge et un personnage historique. Marie Curie, Napoléon ou encore Nefertiti, écoutez ces figures de l'histoire pour raconter les événements marquants de leur vie et surtout répondre aux questions de leur jeune public. Prêt ? Alors en avant pour découvrir Dans la classe de
Napoléon !
Les enfants, le premier qui termine son exercice de maths choisira un personnage dans le grand livre d'histoire.
Terminé !
Bravo, Jade. Les autres, vous terminerez demain. Jade, vas-y. Tu peux prendre le livre et choisir avec qui nous allons discuter.
Lui !
Choix intéressant. Vous êtes prêts ? Aujourd'hui, nous allons rencontrer Napoléon.
Ah ouais !
Ah, il est vraiment trop bien, lui.
Il est marrant, son chapeau.
Pourquoi il cache sa main dans sa veste ?
Quelqu'un peut m'expliquer ce que je fais ici ?
Monsieur Bonaparte, bonjour. Nous nous sommes permis de vous sortir du grand livre d'histoire pour vous poser quelques questions sur votre vie, votre parcours.
Ah, ma vie. Il y a tellement de choses à dire dessus que j'en ai fait un livre. Mais allez-y, je vous écoute.
C'est vrai que vous êtes né en Corse ?
En effet, petit. Je suis né le 15 août 1769 à Ajaccio. À cette époque, mon île venait tout juste de devenir française. Avec mes parents, mes quatre frères et mes trois sœurs, nous vivions dans une maison misérable.
4, 5, 6, 7, plus lui...
8 ! Vous étiez 8 enfants ?
Oui, c'est cela, oui.
Waouh ! Il devait y avoir des anniversaires tout le temps et plein de cadeaux à Noël !
Non, pas spécialement. Même si ma famille était issue de la noblesse, mes parents n'étaient pas très riches. Heureusement pour moi, bien que plutôt bagarreur à l'école, j'étais aussi très doué. Si bien que mon père a réussi à m'obtenir une bourse pour que je poursuive mes études sur le continent. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 9 ans, je suis parti de chez moi.
À 9 ans ? C'est super jeune pour partir de chez son papa et sa maman ?
Comme j'aime à le dire, les hommes sont ce qu'on veut qu'ils soient. Et mes parents voulaient que je sois un grand chef. Alors, en 1779, je suis entré au collège à Autun, puis à l'école militaire de Brienne, où j'ai appris la discipline et les mathématiques.
Ah, bah, si vous pouviez m'aider à finir mon exercice pour demain, ce serait gentil.
Et vous vous êtes fait des copains à l'école ?
Non, on ne peut pas dire ça. Il faut savoir qu'à ce moment, je ne parlais pas français. Je parlais corse. Et j'ai beau avoir appris rapidement la langue, j'avais toujours un accent dont les autres élèves prenaient plaisir à se moquer.
C'est nul de faire ça.
Je ne te le fais pas dire. Mais 5 ans plus tard, en 1784, je quitte l'est de la France pour rejoindre une autre école militaire à Paris. Et c'est là-bas que j'ai vraiment commencé à m'amuser. J'ai pu commander, diriger et organiser. Un de mes professeurs disait de moi que j'étais du granit chauffé au volcan.
Ça veut dire quoi ?
Disons que j'avais mon petit caractère. Après 1 an, je deviens lieutenant en second dans l'artillerie. J'étais extrêmement fier de moi. Malheureusement, en 1785, mon père décède et je dois rentrer en Corse pour aider ma famille. C'est alors qu'en 1789, un événement majeur marque un tournant dans l'histoire de France et dans ma carrière. la révolution.
La quoi ?
La révolution. Vous vous souvenez ? On en a parlé en classe. C'est lorsque le peuple de France s'est soulevé pour reprendre le pouvoir au roi.
Quand elle commence, j'ai 19 ans et je prends place aux côtés des révolutionnaires. Et en 1793, je participe à une bataille qui me rendra célèbre, le siège de Toulon. À l'époque, les partisans du roi s'en étaient emparés et l'avaient livré aux Anglais. C'était sans compter sur mon grand sens de la stratégie. J'ai élaboré un plan aussi malin qu'audacieux et nous avons pu reprendre la ville. Avec cette victoire, j'ai obtenu une promotion et je suis devenu général en chef de l'armée d'Italie.
De l'armée d'Italie ? Alors que vous êtes français ? C'est pas un peu bizarre ?
Hein ? Quoi, pardon ?
Non, Jade. L'armée d'Italie, c'est le nom donné à une des armées de la Révolution française, basée tout proche de la frontière italienne.
C'est cela. À sa tête, en 1796, je me suis battu contre les Autrichiens qui occupaient le nord de l'Italie. C'était un affrontement mémorable, appelé la bataille du pont d'Arcole. 2 ans plus tard, quand je rentre en France, je suis acclamé en héros et ma popularité auprès des Français n'a jamais été aussi forte. Il me vient alors une nouvelle idée. Partir en Égypte pour barrer la route des Indes aux Britanniques.
C'est quoi la route des Indes ?
C'est un trajet maritime qui permettait aux pays européens de rejoindre les Indes orientales, c'est-à-dire les pays situés en Asie du Sud-Est, pour s'approvisionner en coton et en épices. C'était une route très prisée à l'époque.
En 1798, j'arrive donc en Égypte et là, tour à tour, je conquiers la ville portuaire d'Alexandrie, puis celle du Caire.
Waouh ! Mais vous ne faites que de gagner !
Pas tout le temps. Parce que pendant que je livre bataille, les Anglais en profitent pour attaquer et détruire toute ma flotte restée à Alexandrie. C'était un désastre. Mais nous avons tout de même remporté une victoire sur le plan de la connaissance. Car grâce aux archéologues, aux naturalistes et aux géographes qui m'ont accompagné, j'ai fondé l'Institut d'Égypte pour y étudier la civilisation des pharaons. Et je ne m'arrête pas là. En 1799, je rentre en France et je profite que le pouvoir en place soit affaibli pour faire un coup d'État les 18 et 19 Brumaire.
Les quoi ?
Ah oui, c'est vrai qu'on n'utilise plus ces termes depuis 1806. Brumaire vient du calendrier républicain conçu pendant la Révolution. Il correspond au mois de novembre. Suite à mon coup d'État, qui a donc eu lieu entre les 9 et 10 novembre 1799, je deviens consul, puis premier consul. Et là, je fais des réformes, je crée des préfectures, des mairies, je transforme le Louvre et je fonde pas moins de 45 lycées.
Tout ça ?
Oh, mais ce n'est pas tout. Pendant 4 ans, je rédige le Code civil. Dans cet ouvrage, je fixe moult lois allant des règles du divorce à l'autorité des parents en passant par les conditions de vie des soldats.
Et c'est encore quelque chose qu'on utilise aujourd'hui ?
Évidemment.
Oui, enfin, il a tout de même été beaucoup modifié.
Ah bon ? Vraiment ? Bon, j'imagine qu'il faut savoir vivre avec son temps.
Et ensuite, vous devenez empereur, non ?
Ah ça, oui. Le 2 décembre 1804. J'avais peur que le pouvoir m'échappe. Alors j'ai organisé une magnifique cérémonie. Quand le pape Pie VII s'est approché avec la couronne, je la lui ai prise des mains et je me suis couronné moi-même. Vous auriez dû voir sa tête. Et c'est comme ça que je suis devenu Napoléon Ier.
C'est pas très logique de faire ça.
Ainsi nommé empereur des Français, j'étais inarrêtable. Bon. En 1805, on a tout de même subi une nouvelle défaite contre les Britanniques lors de la bataille navale de Trafalgar.
Ils sont trop forts en navigation, les Anglais.
Hein ? Pardon, quoi ?
Rien.
Mais j'ai triomphé des Russes et des Autrichiens à Austerlitz la même année. Et en 1808, je vais même placer mon frère Joseph sur le trône d'Espagne. Mon armée ne cesse de s'agrandir et je compte plus de 100 000 cavaliers et des milliers de soldats à pied que l'on appelle les grognards.
Pourquoi les grognards ?
parce qu'il ne faisait que de râler et de grogner, tiens. Mais le plus important, c'est que l'Empire français se portait à merveille. On avait conquis la Hollande, la Belgique, la Suisse, l'Autriche, l'Italie et l'Espagne. Vous vous rendez compte ?
Ils devaient pas être trop contents, tous ces pays, hein ?
Et vous êtes allés jusqu'où, comme ça ?
Jusqu'en Russie. Mais, bon, c'était une erreur. Pourtant, ça avait bien commencé. En 1812, après une bataille incroyable, on réussit à prendre Moscou. Mais on a vite déchanté. Entre l'hiver glacial, un incendie ravageur et une contre-offensive russe rondement menée, on a dû battre en retraite et traverser ce maudit fleuve qu'est la Bérézina.
Ah oui, la Bérézina. Ma grand-mère, elle dit toujours ça quand son équipe de foot perd un match.
C'est la Bérézina qu'elle dit.
Oui, ce fut tellement catastrophique avec 200 000 hommes qui ont disparu que ça en est devenu une expression. Mais le pire, c'est qu'en me voyant en position de faiblesse, les Russes, les Autrichiens, les Suédois et les Prussiens se sont alliés et là...
C'est la Bérézina.
Exactement. La France est envahie. Moi, j'abandonne et la monarchie revient avec Louis XVIII au pouvoir. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je m'installe sur l'île d'Elbe, en Méditerranée, et je prépare mon grand retour. En mars 1815, je rentre à Paris et je chasse le roi pour reprendre la tête du pays. Aussitôt, je repars à la conquête du monde.
Et vous remportez encore plein de batailles ?
Pas tout à fait. Le 18 juin 1815, à Waterloo, en Belgique, j'affronte les Anglais, les Prussiens et les Hollandais. Et là, c'est la défaite.
La Waterloozina ?
La Waterloos !
Si on veut, je rentre en catastrophe à Paris. Et je suis obligé de me rendre aux Anglais. Seulement 3 mois après avoir repris le pouvoir. Et cette fois, je suis exilé à Sainte-Hélène, une île minuscule perdue dans l'Atlantique Sud.
La Corse, l'île d'Elbe, et maintenant Sainte-Hélène. Vous adorez les îles, en fait.
C'était pas vraiment un choix. Pourtant, le 14 octobre 1815, après un long voyage en bateau, j'arrive sur cette terre qui sera pour moi la dernière.
Vous étiez tout seul ?
Non. Certains de mes généraux m'ont accompagné, ainsi que mon valet de chambre et le comte Emmanuel de Lascasse. C'est lui qui rédigera mes mémoires, le livre dont je vous parlais au début. C'était un bon moyen de passer le temps, car je suis resté sur cette île 6 ans. Avant de m'éteindre, le 5 mai 1821.
Wow, quelle vie !
Et vous saviez que votre corps avait été ramené à Paris ? Maintenant, il est dans un tombeau sous le dôme des Invalides.
Vraiment ? Ça, c'est une excellente nouvelle, ça.
Les enfants, est-ce que vous avez une dernière question à poser à Monsieur Bonaparte ?
Moi !
Vas-y, Malik. Pourquoi vous gardez toujours votre main cafiée dans votre veste ?
Ah, eh bien, il y a 3 raisons à cela. La première est toute bête. C'est que de mon temps, les pantalons n'avaient pas de poche. Ne sachant pas quoi faire de ma main, voilà la solution que j'ai trouvée. La deuxième raison, c'est que cette posture m'aide à me tenir droit. Et quand on est à la tête d'une armée, et encore plus d'un pays, c'est important d'avoir de la prestance et une allure reconnaissable. Et enfin, la troisième raison est que mon estomac me faisait souvent souffrir. Alors dès que j'en avais l'occasion, je me massais discrètement le ventre pour calmer la douleur. Bon, je dois vous laisser maintenant. Je vais visiter les Invalides. Au revoir les enfants.
Au revoir, Napoléon Ier.
Les enfants, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre historique. Cet épisode a été écrit par Thomas Le Petit Cor, interprété par Vincent Payet et Clara Ziegler, mis en musique par Léopold de Roy et Fanny Dupuis. À bientôt pour un nouvel épisode de Dans la classe de...
Ce podcast a été produit par Unique Héritage Média. Retrouve toutes les informations sur maisondupodcast.fr.